Culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un patrimoine tout à fait spécifique. C'est le patrimoine social, humain et industriel de Port-Briey. Cette petite ville qui a connu ses heures de gloire du temps de la fonderie Chappé, en déambulant dans les rues de ce village, de ce gros village, on peut retrouver toute l'histoire un peu de ce qu'on a appelé le paternalisme dans l'industrie de la fin 19e jusqu'au milieu 20e à peu près. Alors je suis avec Mathieu Iseaga, bonjour Mathieu.
Bonjour.
De Laval Tourisme, qui a consacré des travaux de recherche et d'études et qui va nous faire partager toutes ses connaissances de ce village avec l'église qui est juchée tout en haut, l'étang, le grand étang derrière nous.
Effectivement, là, on est vraiment sur un lieu emblématique de Port-Briey, face à l'étang, à proximité de la voie ferrée. Et derrière moi, on voit cet immense site aujourd'hui, malheureusement, abandonné, encore partiellement pollué, il me semble, mais en cours de dépollution, qui est le site des anciennes fonderies de Port-Briey. Alors, l'histoire de la ville, elle remonte au XIe siècle. Fin du XIe, on a déjà la présence de forges ici à Port-Briey, donc qui appartiennent directement au seigneur de Laval, qui vont être une source de revenus non négligeable, ces forges pour les comtes de Laval au cours de leur histoire. Pour aller très rapidement, on va passer sur du haut fourneau à partir du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, on est sur de la fonderie, donc on ne travaille plus le fer, mais un nouveau matériau qui est la fonte, donc mélange de fer et de carbone pour obtenir un parent de l'acier qui est assez malléable, assez souple et très pratique parce que beaucoup plus léger que l'acier lourd. Cette fonderie donc, de Port-Briey va être rachetée à la fin du XIXe siècle par Armand Chappé. Alors Armand Chappé, c'est un personnage qui va beaucoup marquer deux villes de son empreinte. Alors il est né en région parisienne et il est à ses débuts secrétaire comptable pour M. Victor Doré, qui lui-même est un maître des forges, qu'on les appelle à l'époque, mais dans la région de la Sarthe, puisqu'il est maître des forges au Mans. Il possède deux sites, un site au Mans et un site à Antoigné, le site dans la ville de Saint-James-sur-Sarthe actuellement, donc à une quinzaine de kilomètres du Mans. Et ce monsieur Victor Doré, il a deux filles. Armand Chappé a eu la bonne idée d'en épouser une, Victorine. Victor décède, Victorine hérite de la moitié des biens de son père, donc du site d'Antoigné, sa sœur gardant le bien du Mans. Et c'est donc Armand Chappé qui va assurer la direction donc, du bien de son épouse et il va devenir lui-même un maître de forge. Alors, Armand Chappé, c'est un homme qui s'est beaucoup formé aux nouvelles techniques de fonderie, notamment en Angleterre. Il va les importer en Mayenne. Il va racheter un deuxième site, donc celui de Port-Briey. Et là aussi, avec ses nouvelles techniques, il va beaucoup développer sa marque. La société Chappé est fondée en 1895 et remporte très tôt plusieurs titres nationaux, notamment aux expositions universelles parisiennes. Armand Chappé, il va aussi beaucoup profiter, comme beaucoup d'autres maîtres des forges, de la Première Guerre mondiale. On fabriquera des obus à Port-Briey à ce moment-là. Et donc, ce conflit va beaucoup enrichir la société. Armand Chappé, pour continuer sur l'histoire de la famille, il aura deux fils qui ont deux destins assez différents au début. Le premier, Louis, marche dans les pas de son père. Il est formé auprès de son père, il l'assiste et il sera pendant un temps directeur des forges, enfin des fonderies, et maire de Port-Briey. Puisqu'à l'époque, les deux fonctions vont de pair. Armand Chappé était maire de Saint-James-sur-Sarthe, son fils était maire de Port-Briey et il y avait une entreprise, une usine d'entreprise dans chaque site. Julien, l'autre fils, lui n'est pas intéressé par les forges. C'est un artiste, un collectionneur, un historien. Il se dédie uniquement à ses métiers d'art, à ses passions. Et il va délaisser totalement le côté fondeur de la famille. Le problème, c'est que quand 1922, Armand le père décède, l'héritage de l'entreprise devrait revenir à son fils Louis, qui marchait dans ses pas depuis le début. Louis, malheureusement, a épousé Hélène Dreux et les deux n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Toujours est-il que, par précaution, on a impliqué Julien Chappé, à ce moment-là, dans la gestion des forges pour éviter que la dynastie de fondeurs ne s'éteigne.
Julien, c'était l'artiste.
Julien, c'est exactement l'artiste. Il n'y va pas forcément de son plein gré, c'est même sa femme qui l'y pousse un petit peu à l'époque, dit-on. Julien va poser beaucoup de problèmes parce que il n'a pas grand-chose à faire en tant que maître des forges, n'ayant pas eu toute la formation que ça demande. Il place ses petits-enfants, Gervais, Pavin, Benoît, dans l'entreprise familiale, à des postes où ils vont en plus entrer en concurrence avec leur oncle. Il va y avoir des conflits familiaux qui vont finalement dégoûter ce cher Louis Chappé, qui va abandonner ses fonctions et de maire et de directeur la même année. Là encore, on voit que la coïncidence est importante. Hein. Il aurait pu quitter l'une, mais pas l'autre. Mais non, les deux sont étroitement liés. C'est donc Julien Chappé qui va assurer, donc, pour la fin des années 20, la gestion donc, de Port-Brillet et du site d'Antoigné. Le problème, c'est que ce n'est pas un bon gestionnaire et la société va être revendue à la Société Nationale de Fonderie, donc en 1931. Donc, on continuera d'avoir quand même des produits estampillés Chappé. Alors, certains ont peut-être connu, hein, on avait des anciennes cuisinières Chappé, les radiateurs aussi à eau, un colonne à eau qui était fait en fonte. Hein, dans certaines établissements scolaires, il y en a des très vieux. Des plaques d'égout Chappé, vous en trouvez encore plein au Mans ou à Port-Brillet. Mais voilà, c'est un patrimoine qui a petit à petit disparu. Je ne vais pas refaire tout l'historique de l'entreprise hein, des fonderies, mais la dernière boîte qui était présente, c'était Pebeco, une entreprise luxembourgeoise, qui est partie en 2011, donc laissant le site abandonné. Mmh. Et c'est devant ce très beau site chargé d'histoire donc, qu'on est ici aujourd'hui.
Il y a eu à peu près jusqu'à combien d'ouvriers à la fonderie Chappé ?
Alors, au temps fort, on avait plusieurs centaines d'ouvriers. Je pense qu'on est entre 600 et 800 personnes qui travaillaient directement ou indirectement autour des forges. Mmh. Au plus gros, la population d'ouvriers, c'était 400 personnes hein, sur le site de Port-Brillet. Mais en plus des ouvriers, bah, y a tous ceux qui sont un peu des sous-traitants, comme on dirait aujourd'hui, de l'entreprise, pour le transport. Hein. Alors pour le transport, on bénéficiait à l'époque du chemin de fer. Hein. C'est pour ça que ce site a très tôt intéressé Armand Chappé, qui savait que ce moyen de locomotion allait permettre à l'entreprise de prospérer.
Et il y avait donc déjà l'étang qui était indispensable en eau pour l'industrie.
Exactement, pour refroidir le métal, pour fournir une énergie hydraulique hein, pour les presses, on avait besoin donc, de cet étang, de ce plan d'eau, hein, qui est un plan d'eau semi-artificiel, hein, aménagé petit à petit en fonction de l'évolution du site des forges puis des fonderies.
Alors nous allons grimper vers la petite église où on va retrouver un peu tous les personnages dont vous nous avez parlé, Mathieu. Voilà, nous allons rentrer par la sacristie dans l'église qui est de belle taille d'ailleurs, l'église de Port-Brillet. Ah oui, un très bel hôtel, peut-être 17 ou 18e en marbre. Une grande église toute simple, sans bas-côté, sans petite absidiole. Et là aussi, la présence de la fonte.
De la fonte, vous la voyez, hein, dans le chemin là, qui recouvre la nef de l'église, on a de la fonte sous les pieds. Les colonnes qui soutiennent la petite balustrade ici sont en fonte et l'escalier qui permet d'y accéder, là aussi, c'est de la fonte. Donc on retrouve ce savoir-faire hein, des fondeurs partout dans l'église. Mmh. On ne retrouve pas que le savoir-faire, on retrouve aussi toute la famille Chappé. Si vous regardez attentivement les noms et les personnages des vitraux qui nous entourent, on voit qu'ici, dans le cœur de l'église, on a Saint-Julien, l'évêque du Mans, et Saint-Louis, le roi de France. Louis et Julien, ce sont bien les noms des deux fils d'Armand Chappé. Ces deux vitraux célèbrent leur mariage, donc avec Similienne, l'évêque, et Hélène Dreux, leurs femmes respectives. Alors, ce sont des vitraux qui datent ici, pour ces deux-là, de la fin du 19e siècle, 1898. Donc, à l'époque des mariages.
Et alors, bon, plus récent, mais des vitraux de belle facture, hein.
Alors, des vitraux qui ont été faits ensuite à d'autres époques plus tardives dans la nef, hein, 1925 à 1927, qui ont été dessinés par Julien Chappé lui-même. Hein, donc, il était artiste peintre, nous l'oublions pas. On a un vitrail qui est un hommage à Armand Chappé, rendu par M. et Mme McDermott. On a Saint-Éloi, donc saint patron des forgerons, des fondeurs, qui est notamment inscrit aussi sur une petite salle, hein, la salle Saint-Éloi, la salle des fondeurs qu'on appelle. Et puis, on a après les petits-enfants qui viennent s'inviter aussi, comme ils s'invitaient d'entreprise, dans l'église. Hein, donc, Gervais, Pavin, Benoît. Et puis, dans le dernier vitrail de la nef, vitrail plus récent de 2005, on a Notre-Dame de Pontmain. Alors, ce qui est intéressant avec la présence de cette famille patronale dans l'église même, c'est qu'on a presque une déification, finalement, de la figure patronale. C'est le bon père hein, qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous loge. On est sur une figure presque divine du patron à l'époque.
Alors, je reviens sinon au sol. En effet, le sol, il y a de la fonte. Ce sont des petits carrés, comme un carrelage. Des petits carrés de fonte qui alternent en dessin. On dirait un tapis gris et noir. C'est très étonnant. Hein. Et dans la sacristie aussi, en plus petit. Ah oui, oui, oui. Alors là, nous allons nous diriger, vous disiez, Mathieu, vers la petite fontaine, c'est ça ?
La fontaine de Wallace, on peut s'y diriger, oui.
Alors nous allons monter donc vers les
vers les quartiers, vers le quartier des maisons ouvrières, et alors on passe près de la fameuse fontaine.
Voilà, oui, la petite fontaine ici devant laquelle on s'arrête, donc c'est une fontaine Wallace, hein, donc qui date de 1895. 1895, on voit encore qui est à la tête de la fonderie aujourd'hui, en 1895, puisque enfin, à ce jour, on a A et C, c'est Armand Chappé, hein, ces initiales qui sont gravées. Alors fontaine qui est très pratique, ça apporte l'eau courante aux ouvriers. C'est très gentil de la part du patron de mettre ça en place pour ses ouvriers. Le seul souci de cette fontaine, c'est que bah, elle est très éloignée de la cité ouvrière, puisque vous voyez, on va devoir traverser la route et monter toute la petite côte pour s'y rendre. Alors pourquoi est-ce qu'il la met là et pas ailleurs? C'est pas pour embêter les ouvriers, c'est parce qu'en plus, lui, il a un deuxième objectif en tête, Armand Chappé, c'est celui de se faire une petite publicité. La voie ferrée passe juste ici, à côté de la fontaine, et donc on se dit que si les gens du train, qui va un petit peu moins vite que nos TGV actuellement, peuvent voir la fontaine et donc le savoir-faire de ses ouvriers de son entreprise, ce sont des clients potentiels pour lui. Donc voilà, on place la fontaine ici, au milieu, entre la fonderie et la voie ferrée, pour que ça profite avant tout à l'entreprise pour faire la pub, et ensuite, dans un second temps, aux ouvriers.
Alors là, on entend d'ailleurs la sonnerie du train. Bravo.
Oui. Le réel, le direct.
Le direct. Et bien sûr, la présence dans cette fontaine qui a une architecture arrondie, deux colonnes, la présence de la fonte.
La fonte qui est partout à Port-Brillet. Alors on la voit sur les fontaines, sur les plaques des couches, sur les lampadaires, sur les pots de fleurs du centre-ville. La petite flèche ici qu'il y a devant l'étang, sur le muret, c'est aussi de la fonte. Il y a vraiment un gros savoir-faire hein, qui a été transmis de génération en génération ici à Port-Brillet et qu'on retrouve un peu partout dans l'architecture de la ville.
Le soleil noir tourne sur la vallée, cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Vous êtes bien sûr Fidélité Mayenne, je suis à Port-Brillet, en compagnie de Mathieu Isseaga, de l'Office du Tourisme de Laval Agglo. Nous déambulons dans le village, véritable patrimoine industriel et ouvrier de la fin du 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle, en lien, bien sûr, avec la société de fonderie Chappé.
Voici au cœur du village, des maisons ouvrières du 19e et début 20e.
Alors même oui, bon début 20e, hein, même jusqu'après, hein, il y en a jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, hein, des maisons ouvrières construites à Port-Brillet. Maisons qui sont très similaires à chaque fois hein, sur leur période de construction, mais chaque rue, on va voir des maisons qui seront de même taille, de même hauteur, des maisons très petites. Hein, généralement, on aura deux étages en moyenne, hein, plus parfois un semi-sous-sol. Un étage rez-de-chaussée qui est l'étage de vie, hein, et puis l'étage supérieur, donc le premier étage qui lui va servir vraiment pour dormir, ce sont des chambres à l'époque. Le gros de la vie ne se fait pas dans la maison encore, hein, mais on sort beaucoup pour travailler, ne serait-ce que ça. Et donc on ne vit la maison que la fin de journée qui se fait beaucoup plus tôt à l'époque hein, qu'aujourd'hui, puisqu'il faut se lever beaucoup plus tôt le matin pour embaucher, bien sûr. Maisons qui vont beaucoup se distinguer, on le voit depuis les extérieurs, parce que si à la construction elles sont toutes identiques, après chaque ouvrier aura à cœur de personnaliser sa maison. C'est bien connu, on veut avoir une plus belle maison que son voisin. Chez les ouvriers, ben, on voit qu'il y a cette volonté de se différencier, donc certains vont repeindre l'aventure. On a donc des alternances de couches aux nuances très légères, hein, donc du beige, du blanc, du jaune clair, du rose saumon. Mais voilà, chaque maison est différente de la voisine, alors qu'à l'origine, c'était bien les mêmes.
Avec toujours un petit jardinet minuscule. Hein.
On voit d'ailleurs que bah, dans l'aménagement moderne hein, de ces maisons, on a souvent rajouté des annexes, hein, donc soit en maçonnerie, soit en boiserie, soit aussi des petites vérandas pour étendre un peu cette surface habitable, que forcément, on a, quand on habite ces maisons ouvrières, un manque d'espace qui se fait vite sentir dès qu'on est nombreux.
Alors vous disiez qu'il y avait évidemment beaucoup de savoir-faire différents et qu'il y avait des échanges de savoir-faire pour aménager et autres, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui travaillaient dans le bâtiment autour.
Bah, disons que vous voyez, il n'y a pas de spécialistes comme on pourrait trouver sur un bassin de population comme Laval aujourd'hui. Donc forcément, comme on est des gens qui viennent d'entreprises qui sont des gens manuels, un travailleur est très polyvalent, comme c'était le cas hein, donc en ce début de siècle, eh ben, les savoir-faire vont s'échanger. Tu me fais une tarte, je t'aide à faire ta véranda, tu veux faire un petit mur, bah attends, on va se rendre service. Une solidarité qu'on retrouvait beaucoup dans les sociétés ouvrières, hein, on pense au Pas-de-Calais, on pense à l'Est. Ici, sous un village comme ça, qui est dans ce type de société, bah, on a ces solidarités, ces échanges qui ont perduré et qui ont permis à ces ouvriers voilà, d'acquérir un niveau de vie bien supérieur à celui de l'ouvrier parisien de l'époque. Hein.
Ah, oui. Par contre, au niveau... De la vie privée, ça devait être difficile. On était au courant de toutes les scènes de ménage, de toutes les engueulades des gamins, parce qu'on est vraiment collés les uns aux autres.
Exactement, vous voyez, c'est que des maisons mitoyennes, donc forcément, je ne vais pas rentrer à l'intérieur, mais vous comprenez bien que si ça tape sur la table à un endroit, on entend deux maisons à côté. Donc effectivement, quand il y a une engueulade, le voisin est au courant, quand il y a un barbecue, tout le quartier sent les saucisses. Mais généralement, on ne fait pas de barbecue seul, hein. Il y a vraiment un esprit de groupe, un esprit solidaire, mais aussi d'invitation très avenant, on se connaît tous, et c'est une seule grande famille finalement. Alors c'est réparti par bloc, c'est réparti par rue, mais généralement les fêtes sont ouvertes à tous, et c'est très rare que les gens n'aillent pas faire le café chez le voisin et vice-versa. Donc c'est un esprit qui a beaucoup perduré, ça, même après la fermeture de la fonderie, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Il y a des liens très forts entre ces familles qui ont parfois littéralement grandi côte à côte sur plusieurs générations.
Et alors là, juste derrière nous, un bâtiment mais très grand, assez imposant, avec une, tout en long, avec une tour carrée décorée de briques beige, de briques rouges. Et ce sont les anciens bains-douches.
C'est ça, des bains-douches, donc à Port-Brillet, qui sont légèrement antérieurs à ceux de Laval. Hein, donc bains-douches qui, eux, répondent à une demande, là encore, bah, de l'entreprise. Monsieur Chappé et ses fils, son fils Louis se sont rendus compte que les ouvriers travaillaient mieux s'ils étaient en bonne santé. Donc on va très vite se rendre compte qu'il est important d'avoir des ouvriers qui prennent soin d'eux, qui ont conscience de l'importance de l'hygiène et de ce que ça apporte en termes de défense immunitaire et donc bah, de productivité au travail. Donc on leur met à disposition un bâtiment qui est quand même très imposant effectivement comparé aux maisons ouvrières. Hein, au cœur cette fois-ci de la cité ouvrière, parce que ce bâtiment il est destiné aux ouvriers. On a des très beaux bains-douches donc, qui ont fermé, hein, donc maintenant appartiennent à un privé, mais qui ont vu passer des décennies durant des générations d'ouvriers et leurs enfants, parce que bah, dans toutes ces maisons ouvrières, au tout début, l'accès à l'eau était rudimentaire, et puis surtout, on n'a pas de salle de bain dans ces maisons à l'origine. Hein. Donc, maison petite, parce que bah, y a pas besoin de salle de bain, on va aux bains-douches. C'est vraiment un mode de vie pensé sur ce bâtiment commun au milieu d'une cité ouvrière.
Et on sait à quel moment ils y allaient, le dimanche par exemple ?
Oh non, bah c'était très... Non, le dimanche plutôt, c'est le moment de convivialité, donc au spectacle, à l'air de jeu, au bal du dimanche soir. On va y aller pour les hommes, généralement après la journée de travail, hein, puisque autant dire que dans la fonderie, on sue, chaud de goutte. Les femmes et les enfants vont aussi plutôt y aller le matin quand il n'y a pas école. Donc il y a vraiment une journée de fréquentation plus importante que l'autre.
Avec Mathieu, nous arrivons en bas des jardins ouvriers devant une jolie petite fontaine.
Voilà, donc jardins ouvriers qui sont très importants dans la vision qu'a M. Chappé de la vie de ses ouvriers. Il veut que ses ouvriers, quand ils rentrent du boulot, n'aillent pas sans canailler au bar où ils pourraient céder aux sirènes de la propagande bolchevique. La citation est approximative, mais on comprend bien l'idée. Un ouvrier qui, quand il rentre chez lui, va pouvoir aller bêcher tranquillement son jardin, s'occuper de planter ses petits légumes dans un potager qui est rikiki. Vous voyez la longueur des jardins en face de nous. Hein. Il y a à peu près 2 mètres de large sur allez, une dizaine de mètres de longueur. Ce sont des petites bandes de terre, hein, vraiment typiques des jardins ouvriers à l'époque, qui permettent bah, d'occuper les ouvriers chez soi.
Sainement.
Sainement, selon le patron.
Oui.
Il y a une petite concurrence qui se met en place entre les ouvriers. En plus, chacun veut un jardin plus beau que celui de son voisin. Et du coup, ben, on bêche, on s'acharne, on a travaillé beaucoup à l'usine, on va rentrer travailler un petit peu dans le jardin. Mais en même temps, pour les ouvriers, ben, c'est une petite terre hein, qu'ils ont qui permet de cultiver quelques légumes, quelques fruits, et donc d'agrémenter un peu leurs conditions, leur repas, ce qui n'est pas négligeable à l'époque. Donc là encore, on est dans une situation de gagnant-gagnant, mais qu'au final, il est quand même pensé pour éviter ben, la propagande bolchevique dans l'entreprise.
Et bien sûr, tout en bas de ces petits jardins qui sont un peu en espalier, hein, il y a une petite allée au milieu et puis ça monte, il y en a 50 ou 100, je ne sais pas.
Plus,
et il y a une belle fontaine manuelle, bien sûr, En fonte.
Puisqu'on est ici sur des ouvriers fondeurs dans la fonderie Chappé. On voit ici quand même encore un très bel exemple du savoir-faire de ces ouvriers de l'entreprise Chappé à l'époque. Alors ici, quand on descend encore à la fin de la cité ouvrière, vous voyez, il y a une maison qui se distingue un petit peu des autres. Elle est un peu plus grande, plus haute, plus spacieuse et plus richement décorée. Alors ce n'est pas une maison ouvrière typique celle-ci, c'est la maison du contremaître. Donc le contremaître, il est ici très stratégiquement placé puisqu'il voit les ouvriers rentrer du bar le soir pour rentrer chez eux. Donc de sa fenêtre, il peut leur jeter des regards noirs qui leur diront bien « Soyez à l'heure demain à l'usine, sinon vous serez punis ». Cette maison, elle marque la hiérarchie au sein de l'entreprise, dans la cité ouvrière. Donc on garde toujours cette société de l'entreprise dans la vie privée. Elle reste permanente ici à Port-Brieuc.
Nous sortons du quartier ouvrier, là.
Là, totalement, vous voyez d'ailleurs, les maisons autour de nous s'agrandissent. Alors, il y en a qui sont des maisons plus modernes, bien sûr. Mais il y a aussi des maisons d'époque qui étaient déjà plus grandes, qui n'appartenaient pas donc à la cité ouvrière, mais à des Brillet-Pontins qui ne faisaient pas partie de l'usine. On peut voir ici des médecins, des commerçants un peu plus fortunés, qui là aussi, vous le marquez, leur richesse dans la pierre. On a ici une très belle maison avec des moellons qui se distinguent très bien de la brique, qui est le matériau ouvrier à l'époque, qui m'a identifié très vite la cité ouvrière. On a des jardins qui sont trois fois plus larges que les jardins ouvriers. Par contre, toujours aussi fleuris, parce que là aussi, cette petite compétition avec les voisins, on a plus de temps pour son jardin peut-être ici aussi. Ces gens-là vont aussi prospérer dans des associations donc, qui sont mises en place sous l'entreprise cette fois-ci. On peut penser aux clubs de foot, à des clubs de musique, des troupes de théâtre amateur aujourd'hui. Enfin, beaucoup de structures qui ont été mises en place par l'entreprise Chappé, mais pas par Armand Chappé ou son fils. Même après, quand la Société Nationale de Fonderie a racheté le site en 1931, on continue à voir ce développement d'actions, d'associations, de structures par l'entreprise pour les habitants. C'est aujourd'hui la plupart des associations qui existent encore à Port-Brieuc qui ont été fondées à cette époque, avant la Seconde Guerre mondiale, sous la Société Nationale de Fonderie.
Donc en même temps, il y avait une certaine autonomie, en tout cas un sens de la vie sociale en commun qui existait. Ils avaient l'habitude de vivre entre eux, donc ils avaient des idées, des initiatives.
Exactement, puis il y a l'idée que si jamais on a besoin d'un petit coup de pouce financier, matériel, on peut aller solliciter l'entreprise qui va souvent y pourvoir parce que l'entreprise, elle a intérêt à ce que les ouvriers soient heureux pour les maintenir sur place. Un ouvrier qui est heureux de vivre à Port-Brieuc parce qu'il a tout ce qu'il lui faut, sa petite maison, son petit jardin, son petit club de foot, il ne va pas aller chercher un travail meilleur à Laval. Et cette main-d'œuvre qui est ici présente, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui va en plus pouvoir servir à former les nouvelles générations d'ouvriers. Et donc, on va pérenniser vraiment la présence de cette main-d'œuvre qualifiée sur site. Et on aura comme ça, pour voyez, des générations de fondeurs qui vont se succéder de père en fils. Parce que les enfants, après l'école, quand ils ont passé leur certificat d'études, vont pouvoir aller atteindre le certificat des apprentissages, des apprentis fondeurs, une structure de formation qui est mise en place par l'entreprise dans la ville. Et donc ensuite, on rentre très vite dans l'usine, on y travaille, on envoie ensuite son fils suivre le même cursus, et ainsi de suite, ça se répète. Et comme la famille a le lien social ici, on a des gens qui sont du même milieu, de la même condition, dans les mêmes structures associatives, on est heureux, on ne bouge pas, on ne va pas chercher ailleurs, voir si l'herbe est plus verte.
Voilà, voilà la fin de notre promenade. Oui, je suis à Port-Brieuc, en effet, tout près de la voie ferrée. J'étais en compagnie de Mathieu Isseaga, de l'Office du tourisme de Laval Aglo, et qui nous a fait cette découverte passionnante de la ville de Port-Brieuc, patrimoine humain, social et industriel. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt.
Merci, Christelle.